c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Bergerac 95 avec Alain Jeanne. Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.
Et merci de nous rejoindre pour Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Bergerac 95. Des équipes de films, des comédiens, des chanteurs et bien d'autres pour cette heure que l'on démarre maintenant ensemble. Alors c'est parti pour le sommaire.
Chute, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire de votre nouveau numéro inédit de Chute en écoute la télé, eh bien on va passer en revue les audiences de la semaine dernière et juste après, eh bien on va fêter ensemble le grand retour de la série Plus belle la vie. Ça sera donc ce soir à 20h20 sur France 3 et c'est Léa François alias Barbara Evenot qui fait également son grand retour dans la série cette semaine. Elle apparaîtra dès l'épisode de mercredi et eh bien elle sera notre invitée exceptionnelle. Et puis nos coups de cœur télé de cette semaine également avec Joséphine Sarondi, Marie Loubéry et Mehdi Debout seront nos invités. Nous aurons également le plaisir de recevoir Charles Audouin, le maire d'Auxerre-sur-Drône, qui défend les couleurs de la région Nouvelle-Aquitaine, au village préféré des Français. Et puis la série Crime Parfait fait son retour sur France 3 avec encore deux nouveaux épisodes inédits, avec à la tête Antoine Duléry, qui sera notre invité. Le Gatineau de camping va tout nous dire, peut-être aussi sur des projets futurs d'un camping 4. Et en fin d'émission, pour les premières émissions estivales, puisque nous serons ensemble jusqu'au 24 juillet prochain, et bien toutes les semaines nous allons faire un focus sur les produits régionaux, les produits fabriqués dans notre région en Nouvelle-Aquitaine, et cap sur l'Angélis, les bonnes glaces fabriquées du côté de la Charente-Maritime avec son président directeur général Denis Lavaux qui sera notre invité exceptionnel en fin d'émission. Vous l'avez compris, ça s'annonce encore bien chargé aujourd'hui, alors c'est parti pour les audiences de la semaine dernière.
Les tops et flops d'audience.
Allez, on commence par les audiences de lundi dernier et surprise pour France 2, lundi dernier, c'est la série Mallorca qui arrive en tête des audiences avec 3 578 000 téléspectateurs pour 17,4% de part de marché. Pretty Woman sur M6 est deuxième avec 3 441 000 téléspectateurs pour 16,3% du public et Joséphine sur TF1 arrive à la troisième place avec 3 381 000 téléspectateurs. Cela dit, les trois chaînes sont quand même dans un mouchoir de poche. Sale Gosse, France 3 est à 2 101 000 et 9,3% de part de marché. Mardi, c'est Crime Parfait sur France 3 qui arrive en tête avec quasiment 4 millions de téléspectateurs et 17,6% de part de marché. Le Seigneur des Anneaux sur TF1 arrive seulement deuxième avec 3 538 000 téléspectateurs et Les débuts de la France, un incroyable talent, La bataille du jury ne fait que 2 328 000 téléspectateurs pour 10,7% de part de marché. Sur TF1, mercredi, The Resident arrive en tête avec 4 086 000 téléspectateurs pour 18,6% du public. Sur M6, Cauchemar en cuisine fait un bon score, 3 344 000 téléspectateurs pour 15,9% du public. Déception pour la série Romance sur France 2 qui finit la série à seulement 1 895 000 téléspectateurs et 8,6% de part de marché. Et puis jeudi, il y avait Taxi 2 sur TF1 en tête avec 4 137 000 téléspectateurs. Mais le téléfilm de France 3 fait un bon score également. Les Fantômes du Havre font 2 953 000 téléspectateurs pour 14,4% de part de marché. France 2 est troisième avec les 100 ans de comédie musicale. Les stars chantent pour le site d'action. 1 872 000 téléspectateurs et 10,8% de part de marché. Petit score pour M6 et This Is Us. 1 109 000 téléspectateurs seulement et 5,2% de part de marché. Voilà ce qu'il fallait retenir des audiences de la semaine dernière.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, ces coups de cœur télé cette semaine consacrés à Plus belle la vie. Eh bien oui, c'est son grand retour. Elle vous a manqué, nous aussi. Elle nous a beaucoup manqué. Barbara Evenot est de retour. C'est Léa François qui est notre invitée. Bonjour Léa.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour ce grand retour dans Plus belle la vie. Ça y est, alors c'est la plus belle des raisons pour laquelle tu t'es absentée. Et justement, mais voilà, maintenant que tu vas faire ton retour, on va revenir un peu sur le passé quand même, ma chère Léa. Parce que la dernière intrigue a été chargée en émotion. Si dans la série t'es parti en cure de désintoxication, j'ai trouvé très bien que Plus belle la vie montre une intrigue sur l'alcoolisme justement qui ne touche pas forcément que des gens prédestinés mais qui peuvent aussi effectivement toucher des jeunes femmes, qui peuvent toucher des jeunes hommes. Tu l'as très bien joué en tout cas.
Oh bah déjà c'est adorable, merci beaucoup. Et ouais, j'étais trop contente de tourner cette intrigue aussi parce que exactement comme vous dites, on n'a pas souvent l'habitude de voir et des jeunes et des filles. Du coup, c'était cool de montrer, je trouve, les dérives. Ça va très vite la barrière en fait entre eux, faire la fête tous les jours, tout le temps et boire des coups comme ça parce qu'on a envie de se détendre et de s'amuser. Et puis au final, voilà. Alors après, on était dans Plus belle la vie, ça a été un peu tout accéléré et précipité. On n'a pas suivi la façon dont elle a bu et pendant des mois, mais c'est vrai que ouais, la descente aux enfers était assez violente et c'était super intéressant de jouer ça, quoi. Je me suis vraiment éclatée sur cette intrigue.
Oui, c'était vraiment une barbare en perdition, hein. On sentait vraiment au fur et à mesure qu'elle était perdue dans sa vie personnelle, sa vie professionnelle était en train d'en pâtir. C'était assez compliqué à vivre pour le personnage. Toi, quand t'as lu le scénario justement et qu'on t'a dit voilà, il va se passer ça, tu t'es dit quoi au premier abord justement? Est-ce que t'as été justement consulter des groupes de parole, des choses comme ça pour essayer de savoir un peu comment le jouer ou tu te l'es vraiment approprié?
Bah, au premier abord, j'ai tout de suite trouvé ça super intéressant. Puis le fait que voilà, ce soit lié à sa solitude qu'elle avait à ce moment-là, ça montre qu'effectivement, ça peut aller très vite. Tu te sens seule, t'as envie de te changer les idées, tu te mets à boire, à sortir, et puis tu rentres dans un engrenage, et puis tu te réveilles plus le matin, tu vas plus bosser, et puis finalement, tu vas bosser bourré parce que bon, c'est pas si grave. Et voilà, elle s'est retrouvée quand même dans un bien sale état. Et au final, non, je me suis vraiment éclatée à tourner ça, quoi.
T'as dû recevoir des centaines de messages. Des centaines de témoignages, justement, quand l'intrigue est passée en télé, les gens devaient t'arrêter dans la rue, te poser des questions sur comment t'avais vécu un peu, justement, ce tournage aussi. Quels sont les plus beaux témoignages que t'aies pu recevoir, justement?
Ouais, bah, c'est vrai que c'est fou, en fait, le nombre de gens qui m'ont dit « Moi aussi, j'ai connu ça. Moi aussi, j'ai été moi-même alcoolique. » Ou ma mère, ou ma sœur, ou mes parents, mon frère. Et enfin, c'est vrai que ça touche énormément de monde. Moi, je me suis inspirée aussi de certaines personnes que je connaissais parce que dans mon entourage propre, j'ai connu aussi des personnes qui ont un peu sombré dans l'alcool. Et c'est vrai qu'on voit que ça peut faire des ravages énorme, quoi. Ça peut bousiller des vies, la sienne à coup sûr, et celle de l'entourage aussi qui en souffre beaucoup. Et c'est très très dur pour l'entourage de voir les gens se détruire. C'est ce qu'on a tourné un peu quand on voyait le personnage de mon père, Léo, interprété par Pierre Marteau, qui avait vraiment une grosse douleur quand il voyait sa fille dans cet état-là, d'autant que lui-même était un ancien alcoolique, etc. Donc non, il y avait plein de parallèles super intéressants et j'ai l'impression qu'effectivement ça a parlé à beaucoup de monde, quoi. C'était impressionnant.
Quelle était la scène la plus difficile à tourner? Les scènes d'isolement dans la chambre, là justement, de privation, de choses comme ça?
Ouais, je pense que ça devait être ça parce que c'est vrai que je me suis mis, ou en tout cas Barbara était dans ces moments-là dans de tels états de manque et de nerfs que voilà, fallait vraiment tout lâcher et se mettre à fond en condition pour arranger le tout. Moi, Léa, j'étais enceinte de bien 4 mois et demi à ce moment-là, donc c'est vrai que c'était très paradoxal. Mais ça a été des moments bien marquants et des scènes que j'oublie pas, que j'ai pris énormément de plaisir à jouer avec des partenaires qui ont été fabuleux.
Alors là, tu vas être là pendant quelques mois, hein. Ça y est, c'est parti. Barbara est de retour au centre des intrigues.
Exactement, je ne vous en dis pas beaucoup plus parce que vous allez le découvrir de toute façon très très rapidement. Mais effectivement, I'm back.
Et là, je peux vous dire que ça va donner. Alors, tu vas voir qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant ton absence. Abdel en a fait encore de belles. Voilà, pendant ce temps-là, on n'a pas trop vu Francesco. Mais lui, voilà, ça y est, là, avec Estelle, ça fricote bien comme il faut. Tu vas voir qu'il se passe beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses.
Mais je n'en doute pas, j'ai quand même suivi ça, pas avec autant d'assiduité que je le fais d'habitude, mais j'ai quand même suivi ça de loin.
T'es contente d'être de retour au studio?
Ouais, je suis super contente. Non, c'est très chouette, mine de rien, je suis très attachée à ce rôle, et au-delà de ce rôle, je suis très attachée aux équipes, à Marseille, à cette ambiance de tournage, et ouais, j'ai un peu l'impression de retrouver la famille, ça va être chouette.
Nous, on est très très heureux de te retrouver. En tout cas, ne ratez pas le retour de Léa François dans Plus belle la vie, et bien c'est là que ça se passe. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Je venais voir si tu manquais de rien.
Non. Non, tout va bien. Par contre, j'allais me recoucher parce qu'avec le décalage horaire, là...
Juste une petite question, après je t'embête plus. Hein. Tu as entendu un bébé pleurer cette nuit?
Un bébé? Alors là, pas du tout. Pourquoi?
Non, parce que Charles s'est plaint et il disait que ça venait de ta chambre.
Ah oui, non mais je sais, c'est parce que comme j'arrivais pas à dormir... J'ai fait des méditations, donc je pense qu'il a dû confondre.
Oui, enfin c'est vrai que Charles n'est pas un spécialiste des enfants, mais enfin, quand même.
Non, c'est parce que c'est des méditations spéciales, c'est des méditations tibétaines. Ah. Ça fait vraiment... dormir.
Ça aide à dormir, ça ?
Bah oui, ouais, parce que ça aligne les chakras pour, comment dire, pour harmoniser les énergies. Il faut vraiment...
Oui. Bon, écoute, évite de chakratiser tes voisins. Hein.
Ouais.
La nuit, ce sera quand même mieux pour l'énergie de l'hôtel.
Oui, c'est sûr, je suis désolée.
Voilà un retour qui s'annonce des plus mouvementés. Allez, on va se retrouver dans un instant pour la suite de Chute, on écoute la télé. On va dérouler ensemble nos coups de cœur télé de cette semaine. En fin d'émission, Denis Lavaux, le président directeur général de l'Angélis, sera également notre invité. Alors, surtout, ne bougez pas. On revient juste après ça. À tout de suite.
Bouge pas. Chute, on écoute la télé. Reviens dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, de retour dans Chut, on écoute la télé avec nos coups de cœur télé cette semaine. Et puis ce soir sur TF1, eh bien on commence fort avec Joséphine Sarondi, la suite de Joséphine, un film réalisé par Marie-Lou Berry. On avait eu la chance de recevoir Marie-Lou Berry, Mehdi Debbouze et Vanessa Guide lors de la sortie en salle du film. Eh bien rien que pour le plaisir, on va vous repasser leur venue. Joséphine Sarondi, c'est donc ce soir à 21h05 sur TF1.
Bah c'est un challenge, mais c'était une très grande envie depuis un moment et ça fait du bien. Et c'est un personnage que j'ai plaisir à retrouver, qui est très attachante et que j'aime beaucoup. Donc c'était un plaisir de pouvoir la retrouver, de pouvoir écrire des partitions pour mes camarades de jeu et de pouvoir poursuivre ses aventures.
Les personnages, on va en parler un petit peu, le casting. On y retrouve Josiane, votre maman, évidemment, Josiane Balasco, que j'ai trouvé exceptionnelle, évidemment, comme dans tous ses rôles. On a eu la chance de l'avoir pour mes héros. Et il est vrai que le choix de Josiane s'est imposé dès le départ, pour vous?
Oui, c'est qui quoi de plus logique pour ma mère que de jouer ma mère que pour jouer ma mère, quoi. C'est d'une logique implacable. Alors dans ce film-là, elle a une petite participation parce que c'est un personnage qui est pas extrêmement développé, mais elle joue notre maman à Vanessa Guide et moi. Mais oui, moi je trouve que c'est le seul rôle qu'on peut jouer toutes les deux. Je nous imagine pas jouer deux inconnus, ça serait complètement absurde pour le public, ce serait impossible, incohérent. Et voilà, donc que ce soit dans ce film-là ou dans un autre, c'est le meilleur rôle qu'on puisse avoir. Et voilà, mais après, il y a aussi Victoria Abril qui joue la maman de Mehdi Nebbouze, Patrick Braoudé qui fait mon papa. Et d'ailleurs, je suis super contente qu'il soit venu sur ce film parce que c'est quand même un rôle qui n'a pas une ligne de dialogue. Et voilà, et moi, un de mes films préférés sur la grossesse et qui est d'ailleurs pour moi le dernier en date en comédie française, c'est 9 mois. Donc j'étais super contente qu'il vienne. Il y a Catherine Jacob aussi qui est venue faire un petit clin d'œil. Mehdi Sadoun qui fait mon gynécologue, Sarah Succo qui joue ma BFF, Bérangère Krief qui n'était pas disponible pour le tournage, mais j'ai quand même voulu lui écrire un rôle. Donc je lui ai écrit un rôle où elle a épousé un milliardaire, elle vit à Los Angeles et on est en Skype. Cyril Gay qui joue mon meilleur ami et j'en oublie sûrement. Enfin voilà, il y a plein d'acteurs. Je suis super contente du casting. On s'est bien amusé.
Mehdi, le rôle du futur papa, évidemment que ça va mettre dans tous ses états aussi.
D'être futur papa, oui, non, pas au début. Non, au début, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui est plus compliqué à gérer, c'est les angoisses de sa femme et de la future maman. Voilà, et puis de trouver sa place aussi en tant que futur père, parce que il est plutôt dans le don de soi. Gilles, c'est plus important le bonheur de son amoureuse, de Joséphine, que le sien. Ou en tout cas, c'est lié. Elle est heureuse, il est heureux. Voilà, donc cette aventure, ça va bon gré mal gré lui apprendre à trouver sa place aussi en tant que papa et en tant qu'homme, quoi. Pas que dans le don de soi.
Il intériorise beaucoup pendant le film jusqu'au moment où il va péter un plomb, on peut le dire un peu comme ça.
Oui, bah on peut dire ça. En fait, Gilles, c'est un mec, c'est moi en mieux en fait, Gilles. C'est un mec qui a pas de problème d'ego, il est pas du tout susceptible. Voilà, donc et se mettre en colère, il sait pas le conflit, il supporte pas ça, il sait pas gérer tout ça. Donc c'est vrai qu'à travers ce film, il va apprendre à se mettre en colère, à gueuler, à péter un câble et à voir plus, à vraiment partir dans tous les sens, quoi.
On va prendre plaisir en tout cas de voir dans tous ses états, Mehdi, je te le dis. Vanessa, le rôle de la sœur, alors perché en haut d'une barre, limite junkie un peu dans l'appartement qu'elle squatte depuis 2 ans chez Joséphine, ce rôle est plutôt sympa.
Oui, très sympa. Je suis un boulet supplémentaire à la grossesse de ma sœur, voilà, comme si c'était pas déjà assez compliqué comme ça. Je viens en rajouter une couche. Et c'était super à jouer. Moi, j'adore les personnages un peu cartoonesques, un peu en marge, enfin qu'on n'a pas l'habitude de forcément croiser tous les jours dans la vie, même si j'en ai déjà croisé des gens comme ça. Mais voilà, c'était hyper amusant à faire. Et ce qui était très amusant, c'était aussi d'avoir ce personnage deux en un, Bigou, voilà, à la fois les deux extrêmes, à la fois la sœur en nervous breakdown et après la sœur qui se reprend en main et qui du coup devient absolument insupportable de perfection.
Marie-Lou, on va revenir un peu sur les scènes qui ont été qui vous ont le plus marqué.
L'accouchement, ça a été assez mémorable. On a accouché pendant trois jours avec Gilles, avec Mehdi. Je souhaite à personne cet accouchement, hein. Mais on s'est bien amusé à le faire. Le Queen aussi, moi je me suis bien amusée au Queen. C'était vraiment, j'avais très envie d'aller tourner là-bas. C'est un lieu mythique qui a été une des premières boîtes homo de Paris, qui a fermé ses portes. D'ailleurs, on a été les derniers à tourner dedans. Et j'adore les séquences de boîtes de nuit. C'est toujours un peu fake au cinéma et j'avais envie que ça rende bien. Et on s'est bien amusé à le faire. Il y a plein de moments où on s'est bien amusé. Noël aussi. Noël, ça a été premier jour de canicule avec nos bonnets et nos écharpes. Ça, c'était assez marrant. Puis même le côté féerie de la fausse neige, tout ça, de ce plan de grue, quand on arrive en voiture, le dîner, c'était chouette, c'était marrant à faire.
Alors la voiture de Vanessa, on a pris vraiment, moi ça m'a fait hurler de rire de voir l'état de la décapotable.
Ouais, j'adorais cette voiture, elle était pas évidente à conduire, hein, très sensible, elle partait au quart de tour ou alors elle calait, mais je la trouve magnifique, j'aurais aimé la récupérer.
Mehdi, la scène qui t'a le plus marqué?
L'accouchement, bien sûr.
Aussi.
Bah ouais, accoucher pendant trois jours quand même. Oh là là. Mais c'était très drôle, quoi, parce que extrême, c'est un accouchement complètement dingue. Déjà en soi, un accouchement est complètement dingue, mais celui-là, il est juste unique. Et évidemment, on le souhaite à personne parce qu'il est complètement fou. Et puis l'ambiance aussi, l'ambiance générale du tournage était vraiment plein d'amour, de dérision et en même temps de concentration et d'engagement et d'envie vraiment de faire le mieux possible, mais il y avait une ambiance extrêmement chaleureuse, quoi. Il y avait beaucoup de déconne aussi sur le plateau, hein, entre les techniciens, les acteurs, entre tout le monde, c'était chouette. Ouais.
Marie-Lou, quand on fait un film comme ça, qu'on vit des choses pareilles, est-ce qu'on a encore envie de faire un bébé?
Je sais pas.
C'est la question qu'on peut se poser.
Non, mais je me sens assez proche du personnage pour ça, quoi. C'est quand Joséphine, quand Gilles demande à Joséphine, écoute, Joséphine, tu veux cet enfant? Et qu'elle répond, je sais pas, peut-être demain. Ben, c'est ça, quoi. Je sais pas, peut-être demain. Voilà. Je sais pas si je veux des enfants. Je sais pas. Dans l'absolu, ouais, j'aime bien les enfants des autres, mais est-ce que ça me suffit pas?
On est nombreux à se poser cette question. Vanessa, voir un film comme ça, ça donne des idées aussi ou pas?
Moi, je suis sûre que je serai maman un jour. C'est pareil, je ne suis pas pressée. J'ai pris un chien en attendant. Voilà.
Comme beaucoup. Mehdi, t'as déjà vécu cette aventure, toi?
Ah oui, oui, je l'ai vécu. Oui, je suis papa d'une merveilleuse petite fille de 7 ans. Oui, non, mais évidemment. Et ce tournage m'a rappelé des souvenirs, oui. La grossesse, en l'occurrence, et les peurs qui sont liées. Ah non, mais j'en referai bien un deuxième, moi.
Ah non, t'as pas vacciné?
Ah non, non, pas du tout. J'ai toujours rêvé d'avoir une famille nombreuse, moi. Mais le temps qui passe, il va falloir que je me dépêche, mais j'aimerais bien en avoir plein, des enfants.
À très vite, on se quitte encore avec un petit extrait, rien que pour le plaisir, pour la route. À très vite.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Merci, au revoir. Tu es enceinte.
Dis quelque chose.
Piou.
Non, mais c'est bon, en fait, dis rien. C'est mieux.
Bon, vous avez choisi
bière pour moi.
Mojito.
Coca Light.
Oh, t'es enceinte.
Putain, maman, ils sont où mes caleçons, là?
Et comme d'habitude, mon chéri, ils sont rangés avec tes chaussettes propres.
Oh, maman! Ah, Gilles! J'ai bien réfléchi, on peut pas! Je crois que j'ai pas l'instinct maternel. T'as rien du tout, t'es chier, toi!
Putain!
Oh, vraiment, je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils sont moches?
Toi, ma chérie, ça va avec Gilles?
Vous êtes toujours ensemble?
Enfin, tant que tu fais pas d'enfant.
Maman.
Et ce soir également sur Sister, eh bien, la petite histoire de France, un nouvel épisode inédit qui va vous être proposé, à ne pas manquer, avec François Levental notamment au casting. On va bien rigoler encore, écoutez la bande-annonce.
Sister, série. Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, l'héroïne de la guerre de 100 ans. Elle a marqué à tout jamais l'histoire de son illustre empreinte.
Lui, c'est son cousin François d'Arc. Personne ne s'en souvient, mais on se demande bien pourquoi.
Faut pas qu'elle me voit.
Chat!
Raté!
Vous êtes malade ou quoi? On joue pas un chat avec des flèches!
Ouais.
bien plus drôle que la grande, retrouvez la petite histoire de France. Lundi soir sur Sister.
Allez, dans nos coups de cœur télé de cette semaine, eh bien, nous allons avoir le plaisir, eh bien, de retrouver des nouveaux épisodes inédits de Crime Parfait. Et c'est bien au début de l'été, comme ça, de se retrouver avec cette série inédite, avec aux commandes Antoine Duléry, qui est justement notre invité. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ça va très très bien. Et tu sais que tu nous as fait beaucoup rire pendant tout ce mois de juin, puisqu'on a eu le droit de revoir évidemment la trilogie, au moins les deux premiers campings. Et du coup, ben moi, je me suis fait le 3 dans la foulée en Blu-ray. Franchement, on passe de super moments avec toi. Il y a pas à dire. Hein.
Bah, écoute, ça me fait plaisir. C'est des films qui ont marqué le public, donc c'est très agréable parce que c'est rare, comme en tant qu'acteur, qu'on fasse des succès. On fait pas toujours des succès, mais quand on est dans un gros succès comme le 1, le 2, le 3, et ben voilà, ça fait partie de ma vie, de mon ADN. Moi, je pense qu'on en parlera jusqu'à la fin de mes jours, mais je suis très content. Moi, je suis à la fois le commissaire Larosière, pour résumer, et Polo Gatineau de camping, avec ma petite Mathilde.
Exactement, et qu'il n'était pas là dans le 3, mais bon, on sait jamais. Peut-être qu'il y aura un 4 un jour, en tout cas, on espère tous.
Peut-être, on ne sait pas. Je vois Franck la semaine prochaine, puisque j'enregistre une chanson d'Aznavour avec Dubosc et Danny Briand, qui est mon copain. Et donc, je vais pouvoir lui demander si, effectivement, ce ne sont pas des rumeurs, ou s'il y a un camping 4. Mais s'il y a un camping 4, je remettrai le slip de Polo Gatineau.
Ah ben j'espère bien, on peut pas avoir un camping sans Gatineau, ça c'est sûr. En tout cas demain, c'est Crime Parfait et c'est Renaud Delaunay qui va mener l'enquête avec un Bruno de Brandt. Alors le principe de Crime Parfait, hein, pour expliquer aux auditeurs qui ne connaissent pas la série, on connaît l'identité du tueur dès le début et on va suivre évidemment l'enquête qui va permettre eh bien de résoudre cette énigme puisque c'est censé être un crime parfait. Mais rien n'échappe aux yeux et aux oreilles de Renaud Delaunay, notre co-enquêteur avec Elisa. Antoine, cette série de Crime Parfait, c'est donc des nouveaux épisodes qui arrivent. Alors évidemment, oui. C'est des enquêtes, c'est autre chose, c'est du policier. C'est plutôt chouette comme principe, fait de remonter un peu l'enquête, mais en sachant dès le départ qui est le tueur.
Oui, c'est un côté très Columbo. Hein. Columbo a inventé ça, c'est qu'on apprend tout de suite qui est le coupable, et puis après, mais c'est amusant parce qu'on en fait, j'en ai fait deux d'ailleurs, c'est marrant parce que demain soir, quand il passe, les deux inédits, il y a aussi les deux que j'ai fait il y a 2 ans. Donc on a 4 films. On a les 4 films que j'ai fait de Crime Parfait. Mais c'est vrai que c'est très amusant de jouer un personnage pour le spectateur, surtout, qui est très jouissif. On apprend immédiatement qui est le coupable. Et après, moi, j'essaye de dérouler le truc, l'enquête, et de trouver qui est l'assassin. Donc, c'est très amusant à faire parce que c'est très bien écrit par les scénaristes qui ont fait deux scénarios que je trouve vraiment très bien. Et puis, j'ai des bons complices. J'ai Bruno de Brandt et Anne-Lise M dans le deuxième, avec ma petite copine Elisa Rouchqueux qui fait ma collaboratrice. Et c'est vrai que c'est très jouissif parce que voilà, c'est concentré sur 52 minutes. C'est deux films qui n'ont rien à voir, mais qui sont complémentaires dans l'esprit. Et j'étais très heureux surtout de tourner ça dans cette région magnifique de la Bretagne, du Golfe du Morbihan, où j'ai fait d'ailleurs les deux premiers qui passent à nouveau.
En deuxième partie de soirée, à 22h45, on pourra retrouver mise en scène et Aux Abois, qui étaient donc les deux premiers épisodes que tu as fait.
Voilà, que j'ai fait il y a 2 ans, et là j'en ai fait un l'année dernière qui passe maintenant, qui est ceux que vous allez voir, que vous allez découvrir, et qui sont plutôt très réussis parce que j'ai eu évidemment le plaisir de les voir avant. Et c'est vrai que dans cette région absolument magnifique qu'est le Golfe du Morbihan, ça donne beaucoup de choses magnifiques, avec des vues de drones superbes, et c'est bien écrit, les mecs se défoncent pour faire des beaux scénars, et j'ai vu toute la critique à droite à gauche dans les journaux télé, et je suis très content parce que les critiques sont très favorables, et je pense que les gens vont s'éclater à regarder ça, à prendre du plaisir avec moi à résoudre ces deux enquêtes l'une derrière l'autre. Et pour ceux qui ne les ont pas vues, on m'aime vraiment, on peut commencer à 20h30 et finir à minuit.
Et demi, minuit et demi.
C'est pas mal. Et après, si on a encore fin de mois, on peut regarder les 3 campings.
Exactement, ensuite, la trilogie. Bon, voilà. Dis-moi Antoine, t'avais déjà tourné avec Bruno de Brandt ?
Non, jamais.
T'avais pas fait un épisode de K1, rien ?
Non, et j'avais pas, et c'est un garçon charmant, c'est très bien, parce qu'il a quelque chose de très ambigu, comme ça, un peu à la Kevin Spacey, et on s'est très bien entendu, il est très différent de moi, donc complémentaire. Non, j'étais très content de croiser le fer avec lui, et avec Annelise M aussi, qui est une actrice qui a fait plein de choses très différentes. Ce qui est bien dans ces univers-là, c'est que parfois on travaille avec des gens qui n'ont rien à voir avec nous. De Brandt, c'est pas vraiment un acteur de comédie. Moi, je suis un peu quand même plutôt affublé d'acteurs de comédie. Donc, c'est intéressant de mélanger des univers qui n'ont rien à voir. Et s'il n'y a pas ces films, a priori, on pourrait ne jamais se rencontrer avec Bruno. On pourrait ne jamais se rencontrer. Mais ces épisodes font que brusquement, voilà, on s'amuse à confronter nos univers différents et c'est vachement intéressant de faire ces séries-là parce que justement on travaille avec des gens avec l'occasion de travailler.
Alors, t'as plein de cordes à ton arc, évidemment, le spectacle, seul en scène aussi. Alors, évidemment, le monde du spectacle en ce moment est fortement touché par la crise du coronavirus, mais il y a aussi la musique, tu le disais il y a quelques instants. Il y a plein de choses pour toi, plein de projets qui fourmillent tout le temps.
Écoute, il y a plein de choses. Il y a quelque chose dont je peux te parler, c'est que je viens de terminer un livre qui s'appelle Imitateur et je vais raconter toute ma vie. Je l'ai raconté, ça y est, j'ai fini ce livre il y a quelques jours et c'est un livre qui va sortir... voilà, en novembre, au Cherche Midi, et qui va être un livre qui va raconter toutes mes belles rencontres de mon métier. Depuis 40 ans, je le fais, donc je pense que ça va être, j'espère, un livre qui va faire plaisir aux gens. C'est un livre très drôle, je raconte plein d'anecdotes très amusantes. Je vais aussi donc enregistrer une chanson avec mon compagnie Briand. Je continue mon spectacle, dès que évidemment les salles vont rouvrir. Et là, je fais un film Maison de retraite avec Gérard Depardieu, Kev Adams, Daniel Prévost. J'ai aussi fait un premier film aussi avec Gérard Depardieu et Sandrine Bonner. Et je fais au milieu de tout ça un unitaire pour TF1, voilà, qui s'appelle « Il était une fois à Monaco ».
Avec écoute, Ryan Bensetti, il me semble, c'est ça?
Voilà, et si, exactement. Et si ça continue, je serai encore là en 2090 pour te parler de mes projets futurs.
J'espère bien. De toute façon, tu reviendras pour le livre, hein, évidemment, en octobre. Hein. Tu reviendras nous parler du livre quand il sortira en novembre. Tu reviens dans l'émission.
Le livre va sortir en novembre. Il s'appelle donc Imitateur. Au Cherche Midi, je te livre. Tu es un des premiers à qui j'en parle. Donc, on va avoir une grosse promo autour de ce livre, qui est un livre très important, puisque, comme m'a dit un jour un copain philosophe, tu es admirable parce que tu sais admirer. Alors, je ne sais pas si je suis admirable, c'est très prétentieux de le dire, mais si j'ai une qualité, c'est que je sais admirer. Et je sais admirer mes aînés que tu connais, Belmondo, Daniel Prévost. Alors, je vais raconter toutes mes anecdotes avec Johnny, Aznavour, tous mes copains. Donc c'est un bouquin voilà, qui va sortir en novembre et j'espère qu'on aura l'occasion de s'en reparler.
Bon, mon cher Antoine, en tout cas, tu passeras le bonjour également à notre amie Marianne Garcia qui t'a dû croiser certainement la route sur Maison de Retraite que tu tournes dans le Nord. Voilà, on l'embrasse très fort puisqu'en plus, le DVD du film Mine de Rien sort cette semaine avec Marianne Garcia, le film de Mathias Mnécluse. Donc voilà, ça sera l'occasion de voir Marianne. Donc embrasse-la de notre part quand tu la croiseras également sur le tournage. Merci.
Bon,
merci à toi Antoine et puis on se quitte tout de suite avec un extrait de Crime Parfait.
Ah génial, merci beaucoup. Salut.
À très vite.
Bon, qu'est-ce qu'on a?
Jean Lepage, 47 ans. On l'a retrouvé ce matin.
Salut Hervé.
Comment?
Hervé.
Ah, vous avez changé quelque chose à vos cheveux?
Oui.
Ça vous va bien, hein?
Ben, merci.
On peut peut-être s'occuper de notre victime, non?
Notre victime. Ah oui, notre victime, pardon. Oui, bon, on l'a trouvé dans cet état.
Oh la vache.
En plus, il était chirurgien esthétique, le pauvre.
Ah ouais, ça c'est ballot. Et qu'est-ce qui a provoqué ça?
A priori, il y a une allergie alimentaire, des cacahuètes ou de l'huile d'arachide. Bah, suivez-moi.
Il y a des lasagnes à peine entamées dans la cuisine, à peine dans l'huile.
Il savait pas qu'il était allergique?
Je pense pas qu'il les ait faites lui-même. À mon avis, ces plats étaient préparés à l'avance. Regardez, l'étiquette sur la boîte indique qu'il les a mangés vendredi soir.
Bah, enfin, s'il était médecin, il avait forcément quelque chose pour arrêter ses crises, non?
Certainement, il aurait pu se faire des injections d'adrénaline.
Enfin, on n'a rien retrouvé dans la maison.
Et demain soir, mardi, sur Arte, un documentaire inédit, Chine USA, la bataille de l'OMS où l'Organisation Mondiale de la Santé, créée en 1945, est accusée d'avoir fermé les yeux sur les responsabilités de la Chine dans la crise du Covid-19. Le journaliste Pierre Aski enquête sur cette faillite au cœur de la pandémie en retraçant son histoire mouvementée de l'éradication de la variole de 1967 à ses échecs, à l'instar de l'Ebola. Là, en 2015, voici tout de suite la bande-annonce.
Mardi dans Théma.
The World Health Organization should be ashamed of themselves.
Quelle responsabilité pour l'OMS dans la crise du Covid? Une enquête fait le point.
I will praise China again and again.
T'es prête?
En Chine, le confinement a donné lieu au développement de nouvelles méthodes de surveillance. Un journaliste français confiné sur place raconte. Théma Covid. Mardi à partir de 20h50 sur Arte.
Allez, mercredi, c'est une nouvelle édition du village préféré des Français que l'on va avoir sur France 3. Une édition, évidemment, où l'on va défendre les couleurs de notre région avec la ville d'Auxerre-sur-Drône en Charente, dont le nouveau maire fraîchement élu est avec nous, Monsieur Charles Audouin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Monsieur Audouin. Alors, vous avez récupéré, du coup, eh bien, cette émission, Le Village Préféré des Français, Auxerre-sur-Drône. C'est pas la première tentative, mais ce coup-là, ça y est, c'est la bonne. C'est le village qui va nous représenter en Nouvelle-Aquitaine. Et quel beau village vous avez, Monsieur le Maire.
Absolument, c'est une fierté pour nous, c'est un honneur de nous faire à la fois connaître par ce biais des nouveaux Aquitains, de tous les nouveaux Aquitains, mais également de la France entière. Donc nous avons accueilli cette sélection et cette nouvelle avec un immense plaisir, bien entendu.
Alors c'est presque une aubaine, hein, alors qu'on est en train de dire à tout le monde, venez passer vos vacances en France, de voir son village comme ça être défendu dans une émission qui va réunir comme ça 3 millions de téléspectateurs.
Voilà, mais c'est une opportunité formidable et c'est un privilège, je vous le répète. Aujourd'hui, ben voilà, nous sommes regardés, nous avons été soutenus, bien entendu, puisque quand nous avons été sélectionnés, nous avons déclenché toute une campagne de communication autour du sujet et beaucoup de néo-aquitains, mais aussi beaucoup de Français qui connaissent et aiment notre village, ont voté donc pour que nous apparaissions dans ce concours, puisque c'est un concours avec la meilleure place possible. Voilà. Alors l'objectif du concours, c'est de désigner le village préféré des Français, mais ce que je dis toujours, c'est que même si nous ne sommes pas désignés, nous aurons la certitude par rapport à tous ceux qui nous ont encouragés que nous sommes aimés. Et c'est quand même ça le plus important peut-être.
Alors vous êtes un maire fraîchement élu, je le disais, hein, depuis un mois vous avez pris vos fonctions.
Oui, bien sûr, oui.
Pour rendre à César un peu ce qu'il y a à César, qui est l'instigateur de cette inscription au village préféré des Français chez vous à Auxerre?
Alors, à vrai dire, c'est la secrétaire de mairie et puis l'ancien maire qui avait depuis quelques années donc sollicité cette participation et ça s'est concrétisé heureusement cette année avec le petit handicap bien entendu du Covid qui est passé par là, hein, c'était imprévisible et donc on a espéré que le concours continue, hein, et il se réalisera et on en est complètement satisfait. Donc voilà, c'est un long processus, c'est une demande qui a abouti heureusement.
Alors mercredi, on va savoir bien sûr qui est le grand vainqueur? Quels sont les atouts, à votre avis, vous, monsieur le maire, qui peuvent vous permettre de remporter ce village préféré des Français 2020?
Alors c'est un charme particulier qui est le nôtre. On est déjà très titré. Il faut dire que nous sommes un village qui a plusieurs titres à défendre. Nous sommes à la fois un des plus beaux villages de France. Ça, c'est un titre quand même assez remarquable. Nous sommes également une petite cité de caractère et nous sommes également une station verte. Ça veut dire que nous avons la chance d'avoir un village remarquable. C'est un héritage, bien entendu, qui rassemble 1000 ans d'histoire à travers nos pierres. Et nous avons également un espace naturel bien préservé qui est le Val de Drône, une rivière qui coule au pied du village. Auxerre, au début, s'appelait seulement Auxerre et on y a joint sur Drône parce que c'est une magnifique rivière donc qui permet l'été aux vacanciers qui viennent découvrir l'aspect patrimonial et historique du village, de pouvoir se baigner dans un espace naturel. Et je sais que cette année, avec la qualité qui s'annonce, on va avoir beaucoup de baigneurs qui seront ici sur les bords de Drône. Nous avons également attiré dans le village beaucoup d'artisans d'art qui sont un tissu à la fois économique et attractif, particulier. Et donc, il y a aujourd'hui pour les habitants d'Auxerre une fierté d'habiter un village aussi beau et d'autre part, l'envie de partager cette beauté avec tous les visiteurs qui nous rejoignent chaque année.
Auxerre se trouvait aussi sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Absolument, absolument. Nous avons des pistes qui descendent du nord au sud. C'est une voie secondaire qui avait été inventée, donc et nous sommes sur une voie qui part d'Angoulême et qui redescend ensuite et qui rejoint la Gironde. Hein. Donc nous avons l'église Saint-Jacques, hein, qui elle est emblématique donc de ce parcours. Une église qui a une façade romane absolument magnifique, qui est un monument historique orné de splendides sculptures. Et nous avons également, bien entendu, c'est notre chef-d'œuvre absolu et unique, une église souterraine creusé dans la roche calcaire qui est notre sol, qui mesure 18 mètres de haut et qui est un lieu d'émotion particulier. Et chaque visiteur la découvre avec toujours un étonnement, un ravissement qui ne s'épuise pas, quoi.
Alors évidemment, on trouvera dans votre village toutes sortes d'hébergements également. Camping, je crois également, il y a des lieux d'accueil pour les camping-cars aussi. Bref, tout le monde peut trouver son bonheur pour venir à Auxerre-sur-Drône.
Exactement, exactement. Alors le camping en saison estivale, c'est un lieu formidable parce que il est à la fois ombragé en bord de rivière, ce qui est un double atout, 90 emplacements. Parfaitement géré, donc avec une petite guinguette qui donne sur la plage, une plage qu'on entretient chaque année, donc, et qui est un lieu de baignade qui ravit les petits et les grands. Voilà, toutes les générations sont présentes. C'est beaucoup de personnes qui apprécient cet espace naturel. On n'a pas autant d'espace en rivière naturelle que on pourrait l'espérer, parce que en général, c'est des piscines qui sont dans les gîtes, mais ici, c'est l'espace naturel. Et même si on a une piscine chez soi, on a un plaisir fou à venir venir se baigner dans un espace naturel comme la rivière. En bord de rivière, on a également, pour en profiter, un club de canoë qui lui aussi a une activité très intense durant l'été. Donc, on peut naviguer là sur une quinzaine de kilomètres en amont et en aval de la rivière et c'est un loisir formidable parce que c'est une très belle rivière, très bien préservée, donc très poissonneuse également, voilà, qui a tous les atouts d'un espace naturel remarquable.
Oui, c'est ce que j'allais dire, justement, on peut pratiquer la pêche, mais aussi le kayak, le canoë, on peut faire des balades sensationnelles chez vous.
Exactement, jusqu'à la tombée de la nuit, même quelquefois il y a des balades en nocturne qui sont proposées, c'est un charme fou, hein. C'est vraiment très agréable.
Alors avant de se quitter, vous avez reçu vous la visite de Stéphane Bern, est-ce qu'il est venu dans votre village ou pas du tout pour l'instant?
Eh non, Stéphane Bern a été confiné et puis je pense que alors il ne se déplace pas dans tous les villages, ça lui ferait un emploi du temps je pense chargé, ce serait avec un immense plaisir que nous le recevrions, mais pour le moment ce n'est pas au programme, je pense que si nous sommes désignés comme étant le village préféré, on aura très certainement sa visite et ce serait un privilège formidable que de recevoir avec le charme qui est le sien et la connaissance historique qui est la sienne. Et ça, c'est le public qui en décidera et on saura, je pense, peut-être un peu avant, mais au dernier moment, si on a été choisi ou pas. Voilà.
Bon, allez, dernier mot, monsieur Audouin. Allez, oui. Pourquoi il faut voter pour Opterre?
Parce que nous sommes tellement adorables, tellement beaux, tellement charmants et tellement séduisants que voilà, tous les gens qui viennent à Opterre ont beaucoup de mal à en repartir. Hein. Et ça nous montre aussi que on a un public et des résidents qui viennent de l'Europe entière, qui sont aujourd'hui des habitants, qui ont eu un coup de cœur et qui sont restés, qui ne sont plus repartis. Alors, tous les visiteurs ne resteront pas, mais il y en a beaucoup qui auront certainement l'envie de rester ou de revenir. C'est en tout cas ce que l'on souhaite avant tout.
Et je les comprends vraiment. Merci, monsieur Audouin, d'avoir été avec nous. Votez Opterre sur Drône, c'est votre village préféré des Français. Ouais. C'est l'édition 2020 du programme qui sera diffusé donc à 21h05. Ça sera mercredi soir, à ne pas rater, sur France 3. Merci beaucoup, monsieur Audouin. Et puis, bien, bon courage à vous.
Merci beaucoup.
Et puis, bon courage pour les 6 ans à venir. Hein. Il y a du boulot.
Bien sûr. Oui, tout à fait.
Allez.
Merci, c'est gentil.
À bientôt. Au revoir.
Bonjour, bienvenue à Aubeterre-sur-Drône. Aujourd'hui, nous sommes en visite dans ce petit village magnifique. Alors, il faut savoir que Aubeterre a été élu en 1993 le plus beau village de France. Alors ici, on est à 42 km d'Angoulême, 75 km de Bordeaux environ. On est sur les chemins de Compostelle. C'est un lieu important de pèlerinage. Aubeterre-sur-Drône, c'est un lieu avec beaucoup de monuments historiques et aussi beaucoup d'édifices religieux. On a des sites magnifiques comme ici derrière moi. Vous voyez derrière, dans cette falaise, on peut trouver une église souterraine. Alors c'est la roche qui a été creusée, la roche calcaire. Alors je suis avec Monique justement qui va me parler de cette église qui est un site unique.
Oui, elle est unique surtout par ses dimensions. 17 mètres de haut, c'est la plus haute d'Europe des églises dans la roche. Aubeterre était sur un chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et ici, il pouvait s'arrêter pour vénérer des reliques qu'il y avait à l'intérieur. Des reliques qui avaient trait à la passion du Christ. Hein, parce que cette église, c'est une histoire de retour de croisade.
Et mercredi sur M6, c'est Zone Interdite qui reprend ses inédits de l'été. Pour ce premier inédit, eh bien, c'est un sujet sur les camping-cars, la liberté pour des vacances déconfinées qui va vous être proposé. Voici la bande-annonce.
Pour s'évader cet été, quoi de mieux que le camping-car? Les Français en ont fait la star de leurs vacances en plein air, dans l'Hexagone ou à l'étranger.
Ça, c'est joli comme tout.
Il y en a pour toutes les bourses. Audrey et Florian viennent d'acheter un modèle d'occasion à 7000 euros. À ce prix-là, il ne faut pas être trop exigeant.
Ça pique à l'envers!
Le couple devait se marier au printemps, mais le Covid a bousculé tous leurs plans. C'est donc dans leur camping-car qu'ils passeront la nuit de noces. La tendance cet été, ce sont les virées en bande. Marie-Noël et Patrick emmènent enfants et petits-enfants en Nouvelle-Zélande. Mais quand on voyage à 11 dans 3 camping-cars, il n'est pas toujours facile d'être à l'heure pour les excursions. Camping-car, la liberté pour des vacances déconfinées, c'est mercredi 1er juillet à 21h05 sur M6, dans Zone Interdite.
C'est parti mon kiki!
Et jeudi à 20h55, c'est Arte qui va reprendre son excellente série danoise The Killing. Vous allez pouvoir revoir eh bien la saison 1 qui comportait 20 épisodes et c'est les 4 premiers qui vous seront diffusés donc dès jeudi soir à 20h50 sur Arte. Voici la bande-annonce.
Sarah Lund, brigade criminelle. On a découvert le corps d'une jeune fille.
Est-ce que c'est ma fille?
Ça donne l'impression d'un crime prémédité.
C'est lui l'assassin.
Promettez-moi de l'attraper.
Carrément dire qu'elle a pété les plombs.
Je m'inquiète pour toi.
Je progresse, je me rapproche de plus en plus.
Tout l'été sur Arte,
Sarah Lund traque les criminels. The Killing, déjà sur arte.tv et tous les jeudis à partir de 20h55.
Et enfin vendredi, eh bien je vous conseille sur France 3 à 21h05, c'est la télé des années 80, les 10 ans qui ont tout changé de 80 à 84. En 1981, la France élit François Mitterrand, le président socialiste, permet alors l'émergence de médias privés tels que Canal+, animateur, producteur. C'est la révolution de la télé que l'on vous raconte donc vendredi sur France 3, bande annonce.
On passe d'une télévision cadenassé à une télévision libre.
Nous n'avions jamais vu ça.
On n'emmerde jamais, on n'emmerde minute.
Ce sont les aléas du direct.
Nous n'avions jamais entendu ça.
Non. Si j'avais su que je n'aurais rien à dire, j'aurais dormi beaucoup plus tard.
Moi, je suis pour que tout soit dit.
Nous n'avions jamais ressenti ça.
Ces enfants n'ont plus de père depuis 8 ans. Leur mère n'est plus là depuis 6 mois.
Dire un sketch.
Vous avez été intéressé par l'émission?
Exactement.
C'est horreur du déballage de la télévision devant tout le monde.
La télé des années 80 revient sur France 3.
Il y avait une énergie,
une euphorie.
C'était juste inouï, quoi.
10 années qui ont tout changé, 10 années qui nous ont tous changés. Premier volet, vendredi à 20h55 sur France 3.
Et on va faire une petite pause dans un instant. On se retrouve avec le coup de cœur ciné de cette semaine. Et on termine l'émission avec Denis Lavaux, le président directeur général de l'Angélis. Les bons produits made in Nouvelle-Aquitaine. Et je peux vous dire qu'on va pas s'ennuyer, on va même saliver pour cette fin d'émission. Première émission estivale.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré au film Jumbo, un film de Zoé Witok avec Noémie Merlant, Emmanuel Berco et Bastien Bouillon. L'histoire de Jeanne, une jeune femme timide qui travaille comme gardienne de nuit dans un parc d'attractions. Elle vit une relation fusionnelle avec sa mère, l'extravertie Margaret. Alors qu'aucun homme n'arrive à trouver sa place au sein du duo que tout oppose, Jeanne développe d'étranges sentiments envers Jumbo, l'attraction phare du parc.
Il y a quelqu'un ? Salut toi, ça te va si je t'appelle Jumbo? Est-ce que je peux faire un tour? J'aimerais bien te parler de quelqu'un.
Il est où?
Ici.
Ici où?
C'est pas pour du sexe, c'est autre chose.
C'est une blague, non?
Je ressens des choses que j'ai jamais ressenties pour personne.
Ça t'amuse de te foutre de moi ou t'es juste complètement malade dans ta petite tête?
Et tu vas où?
Non, tu me touches pas! C'est juste qu'il me rend heureuse.
Sors de chez moi. Sors de chez moi.
C'est son truc. Elle fait de mal à personne, si? Non.
Fais-toi soigner, ma pauvre, t'es plus avec nous.
Et si c'était à vous d'ouvrir les yeux?
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Allez, on va terminer cette première émission estivale en quelque sorte avec eh bien la mise en avant de nos produits locaux, régionaux, ceux qui nous accompagnent eh bien tout au long de l'année dans Chut, on écoute la télé. Et on va dresser en même temps l'historique pour vous faire eh bien découvrir de bons produits régionaux pour votre été. Et ça va être le cas avec l'Angélis. L'Angélis, ce sont des glaces qui sont fabriquées en Nouvelle-Aquitaine, du côté de la Charente-Maritime. Et on a justement son PDG avec nous, Denis Lavaux. Bonjour Denis.
Bonjour à tous les auditeurs.
Merci d'être avec nous. Denis, l'Angélis, c'est une histoire de famille et en même temps, c'est une histoire surtout aussi d'acharnement pour créer cette entreprise. Et puis aujourd'hui, pour en faire ce qu'elle est devenue, un succès incroyable.
Ah oui, c'est une grande aventure qui dure déjà depuis 24 ans. L'idée, c'était de faire des glaces naturelles, sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. J'ai démarré avec un petit chariot de glace et un franc. J'ai perdu ma maison et j'ai poussé les portes de grandes surfaces pour me sauver. Et aujourd'hui, on est dans toutes les grandes surfaces françaises. Et bien sûr, on est très très présent dans notre région, Nouvelle-Aquitaine.
Qu'est-ce qui a fait pour toi, Denis, le succès de tes glaces, justement? Qu'est-ce qu'elles ont de plus par rapport aux autres?
Ces glaces, ça monte pas. puisque les bacs sont transparents, on n'a rien à cacher, donc on voit bien que la pistache est pas verte, et bien d'autres produits, donc et puis la naturalité, parce que j'aime la nature, je suis un épicurien, et j'aime les choses qui sont bonnes, et quand vous mettez des bons ingrédients, vous faites toujours du très bon, donc c'était de trouver surtout des très très bons ingrédients, les meilleures vanilles du monde, enfin voilà, les chocolats, les cafés, les fraises, les framboises, enfin tous les produits qu'on propose.
À quel moment tu as eu ce déclic qui t'a donné envie de faire de la glace ton métier, ton entreprise, ta vie?
Eh ben, ça démarrait, j'avais 7 ans en fin de compte. Mes parents n'avaient pas les moyens de me donner d'argent et à côté de chez ma grand-mère, il y avait un Italien qui faisait des glaces. Et pour obtenir une glace, je coupais des citrons et des fraises, je lui donnais un coup de main et à chaque fois, il m'offrait une glace. Puis après, j'ai trouvé le système pour avoir de l'argent de ramasser des escargots. Et je les vendais au restaurant et je m'achetais des glaces avec cet argent. Je posais à 12-13 ans des Judas, donc les œilletons, et je perçais la porte des mamies. Et elle me donnait 50 francs, ça me faisait encore acheter des glaces. Voilà. Et j'ai appris la vie et le commerce dans la rue. Et puis l'échec scolaire, et j'ai fait l'école de lettrerie de Surgères, je n'avais pas du tout le niveau. Mais le directeur m'a donné ma chance et en fin de compte, j'ai fait un premier BEP de lettrerie. Mon premier métier, c'était fromager et beurrier.
Alors, il y a quelques années, les glaces étaient vendues uniquement effectivement dans la région. Maintenant, on peut les trouver partout en France. Des parfums aussi originaux. Je sais que tu fais des essais régulièrement en laboratoire pour développer des parfums. Tu travailles même des fois très très longtemps pour développer des parfums qui soient de qualité. Quel est le parfum qui t'a donné peut-être le plus de fil à retordre?
Ah bah le produit local qu'on a sorti l'année dernière, c'est la glace à la barrique. En fin de compte, c'est des douelles de chêne et on les infuse de différentes façons. Et pour arriver à sublimer ce produit, et moi ça a été le plus dur, on a mis plus de 6 mois. Et là on est en train de s'amuser avec une glace à la pomme de terre.
Ah oui, pourquoi pas, c'est original ça aussi.
Oui, tout est original, on fait la glace au foie gras poêlé, on a eu le prix mondial en 2006, meilleur produit mondial. Voilà, c'est des amusements, mais ça nous perfectionne toujours de mieux travailler notre vanille, de mieux travailler les infusions, les macérations d'alcool, des grands XO. Enfin voilà, on apprend toujours, on n'est jamais le meilleur. On est bien plus mauvais que demain où on sera encore meilleur.
Alors c'est vrai que la particularité de l'Angélis, c'est aussi d'avoir développé depuis l'année dernière des variétés de glaces salées au saumon, au foie gras ou encore au poivron. Ça, tu as des cuisiniers qui ont dû s'en régaler, qui ont dû en même temps développer des plats, certainement avec ces glaces-là, parce qu'il peut y avoir tout plein d'idées de recettes finalement.
Oui, il y a plein d'idées. En fin de compte, ces idées de glaces salées, je veux les apporter aux consommateurs. Il y a des petits livrets de recettes parce qu'on sent toujours... on ne sait pas trop quoi en faire de ces produits. Donc dans chaque petit bac, il y a 10 recettes. Et en fin de compte, c'est des chefs qui me mettaient à contribution pour leur faire une glace à l'huître ou des choses comme ça. Et j'ai voulu quand même de donner ce plaisir aux consommateurs qui s'amusent avec ses mets et ses goûts différents. Donc le piquillo, j'adore parce que si on se passe la langue sur les lèvres, les lèvres commencent à chauffer et c'est magique. Ce que je veux donner, c'est du bonheur aux gens. En fin de compte, quand ils dégustent une de nos glaces, ça raconte une histoire. Quand on prend une glace qui a des arômes, on a le goût tout de suite, il reste plus rien. Si on prend une glace Angélis, ça va raconter une histoire. Ce qu'on a au début et en fin de bouche, ça sera plus du tout la même chose.
Il faut que ça soit une expérience gustative.
Ah oui, c'est vraiment l'expérience. Quand je vois les gens déguster et les yeux qui brillent, c'est notre fierté.
Alors tes glaces aujourd'hui, elles se développent évidemment sous forme de bac, mais pas que, sous forme de cônes, puisque l'Angélis a développé les premiers cônes artisanaux français. Ça aussi, c'est un événement avec 3 parfums pour l'instant, mais j'imagine que tu as déjà plein de choses en tête pour développer cette gamme-là. Mais ça aussi, c'est un véritable challenge d'arriver à faire de la gaufrette artisanale comme ça, avec vraiment la petite pointe de chocolat qui va bien dans le fond, tout.
Ouais, alors là, c'est un truc de fou. C'est complètement fou. On a fait un test l'année dernière. On lance cette année. Avec le coronavirus, on a eu quelques problèmes de le lancer dans tous les magasins. Mais c'est un énorme succès. On s'attendait pas à ça. Oui, c'est un truc de fou. Le chocolat, en fin de compte, il n'y a pas l'huile de palme. Donc, ça nous pose des problèmes pour pulvériser. Enfin, c'est un truc inimaginable. J'ai une équipe derrière moi. On est 34. Et on s'est tous mis au boulot et on vient de réussir.
L'année prochaine, c'est 500 000 bûches qui vont être mises en vente. Là aussi, c'est un incroyable succès, puisque pour trouver des bûches Angélis, il fallait s'accrocher pour les fêtes. Arrivé à Noël, il n'y avait quasiment plus rien déjà dans les magasins, alors que toutes les autres marques étaient encore présentes, voire même au-delà du 1er janvier. Les omelettes norvégiennes aussi ont été développées. Comment expliquer aussi le succès de ces bûches? Est-ce que c'est un vrai retour aujourd'hui des Français, Denis, vers le fait maison, vers les produits régionaux, vers des produits de qualité? Est-ce que tu as l'impression que les Français ont envie plus de se faire plaisir, même s'il faut en manger moins et payer plus cher?
On est dans cette mouvance depuis des années et en fin de compte, oui, les gens veulent manger local, sain. Ils veulent que leur achat serve à quelque chose dans l'économie de notre région. Donc c'est très important. Et puis les bûches sont transparentes. Là aussi, on n'a rien à cacher, puisque quand vous voyez une belle photo d'une bûche et quand vous ouvrez 2 heures avant le dessert, bah, vous êtes très déçu. Bah, là, vous ne pouvez pas être déçu parce que vous choisissez votre bûche, puisqu'elles sont toutes faites à la main. Donc en fin de compte, vous vous retrouvez à choisir votre bûche. Et on est simple, on ne met pas de décor, on ne met pas des choses qui nous apportent que des saloperies, des arômes, des colorants. Donc bien sûr, nos bûches sont très épurées, mais c'est notre volonté toujours d'être dans le produit sain.
Et voilà, n'hésitez pas en tout cas à profiter de cet été pour découvrir les glaces Langélis, et c'est toute l'année bien évidemment que vous aurez envie après de les déguster sous toutes ses formes. Denis, merci. Juste avant de se quitter, est-ce qu'on a un scoop sur des parfums que tu es en train de tester, de développer, qui pourraient sortir d'ici quelques mois?
On est en train de travailler de la pistache, c'est une grosse demande. On a une noisette du Piémont qu'on est en train de travailler, qui est exceptionnelle, mais elle coûte extrêmement cher. Donc, il faut qu'on ait un prix qui soit en mesure. Mais des fois, la matière première est trop chère. Donc, on se refuse de la mettre en rayon parce qu'on peut pas vivre avec. C'est malheureux pour le consommateur, mais bon, c'est comme ça. On se refuse des choses. Mais bon, après, Langélis, c'est nos limites. Hein, j'aime le dire. On est restreint de rien du tout. En fin de compte, ce qu'on aime, c'est ce qu'on vit ensemble. Et on est vraiment une équipe très passionnée et passionnante. Pour moi, voilà.
Langélis.com, c'est le site où il vous faut aller pour retrouver les points de vente près de chez vous. Des glaces sans colorant, sans conservateur, sans ajout d'arôme, sans gluten. C'est important de le dire, pour bien manger. Et des glaces fabriquées en Nouvelle-Aquitaine. Alors là, franchement, qui demande mieux encore? Merci Denis d'avoir été avec nous.
Merci à tous les auditeurs et puis fondez de plaisir.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et oui, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Mais lundi prochain, je peux vous dire qu'il vous attend de nombreuses surprises. Nous aurons le plaisir d'avoir en ligne avec nous La Dérive, le carton du moment musical, qui seront donc nos invités. Et nous aurons le plaisir de vous proposer une spéciale Camping Paradis, puisque nous recevrons à l'occasion de l'épisode inédit qui sera diffusé lundi prochain, Monsieur Laurent Ronac en personne, qui en plus a réalisé l'épisode de lundi prochain, mais aussi Candy et Patrick Parrou qui jouent l'inoubliable, évidemment, Christian Parizeau. De beaux moments en perspective qui nous attendent encore une fois dans Chez ton écoute la télé. Alors c'est à ne pas manquer, hein, bien sûr, restez connectés.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute on écoute la télé.
Sans oublier nos applications sur iPhone et Android, Chute on écoute la télé. Quant à moi, je vous retrouve demain à 11h40 sur Bergerac 95 pour la quotidienne, et sans oublier le grand retour de l'hebdo lundi prochain à 20h. D'ici là, je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de nos programmes et je vous dis à demain.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.